La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Roland Barthes est né en 1915 et mort à seulement 65 ans des suites d'un accident de la circulation. Orphelin de père à l'âge de 11 mois, il a vécu dans la Gêne et sa mère ainsi que son demi-frère étaient avec lui à Biarritz d'abord, puis à Paris. Ensuite, c'est la tuberculose qui marque ses années de jeunesse avec de très longs séjours dans divers sanatoriums qui vont le placer en retrait du monde durant la période de la guerre et de l'occupation, lui donnant le sentiment de passer à côté des événements comme nous l'avons vu lundi au cours de notre émission biographique. C'était avec Tiphaine Samoyau. Hier, avec Éric Marty, nous avons parcouru l'œuvre de Roland Barthes, du degré zéro de l'écriture jusqu'au fragment d'un discours amoureux, en passant par son livre sur Racine, les mythologies et l'Empire des signes. Tandis que demain, nous nous pencherons sur un Barthes musicien, mélomane et même compositeur de musique. Ce sera avec Claude Coste qui a co-dirigé, avec Sylvie Douche, un colloque sur le sujet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler d'un Barthes critique littéraire qui remet le lecteur au centre du dispositif, nous serons en seconde partie de cette émission avec Mathieu Messager. Mais d'abord, c'est avec le professeur au Collège de France, Carlo Ossola, que nous allons évoquer le rapport de Barthes au texte et à la littérature comme plaisir. Carlo Ossola, grand spécialiste de Dante et titulaire de la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine. Il écrit sur des auteurs comme Saint-Augustin, Apulée, Erasme, Bossuet, mais également sur Michel Butor et aussi donc sur Roland Barthes. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Si on se met devant une page d'un écrivain qu'on aime, eh bien on éprouve cette sensation profonde, presque de volupté, enfin d'accord presque érotique avec un langage qui n'est pas le nôtre. Et je pense alors que cette nature voluptueuse et presque érotique de l'écriture est liée au fait que l'écriture n'a pas de référent, l'écriture est irréaliste, mais en même temps elle joue d'une sorte d'illusion du référent. Quand je prononce un mot, même un mot isolé, c'est-à-dire un mot qui n'est pas pris dans un réseau de fonctions, de relations, qui n'est pas pris dans une phrase ou dans une syntaxe, qui donc en principe du point de vue des linguistes ne veut presque rien dire, n'est-ce pas, puisqu'il n'est pas soutenu par un ensemble de relations, eh bien, malgré tout, ce mot a tout de suite comme une sorte de saveur. Il procure une sorte de plaisir. Les mots qui ont été maniés par les poètes, eh bien, c'était des mots qui atteignaient cette sorte de réussite, si vous voulez.
Barthes au micro de Georges Charbonnier, le 13 octobre 1967. Bonjour Carlo Ossola.
Bonjour. Monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête sur ce que vient de dire en archive Barthes, avec cette idée que c'est dans le texte lui-même, voire dans le mot, que réside la volupté du texte. Comment est-ce possible ?
Oui, il faut d'abord placer cette formule de Roland Barthes dans le contexte de ce temps-là. C'était le moment du succès de l'arbitraire du signe, la vague Saussure. Barthes le reconnaît, mais en même temps, il dit « le mot a quelque chose de plus substantiel que l'élément référentiel ». Et dans ses variations sur l'écriture, un texte qui a été longuement inédit parce qu'il devait être destiné à un volume chez un éditeur italien.
On va raconter cette histoire.
Voilà. Oui. Et ben, il dit que, en réalité, l'écriture est comme le ciel. Il la compare à l'astronomie et il dit, chez nous, le système des signes du zodiaque est comme un abrégé des possibilités structurales de l'écriture, mêlant les formes figuratives et les formes géométriques. Le ciel s'écrit, ou encore, passant par-dessus le langage, l'écriture est le langage pur des cieux. Quelle responsabilité, quelle, je dirais, immense ampleur qu'il donne à l'écriture. En même temps, quelque chose comme un zodiaque, c'est-à-dire un marqueur du temps, du destin, et d'autre part, une espèce de forme géométrique. C'est-à-dire, il y a, chez Roland Barthes, la conscience du fait que l'écriture s'écrit, mais vous écrit également. Une contrainte et une liberté en même temps, mais une responsabilité énorme, comme si elle était la manière même de d'écrire le ciel.
Alors, vous avez expliqué dans votre préface, donc à ces deux textes, Le plaisir du texte et Variation sur l'écriture de Roland Barthes, qu'au départ, ces deux écrits devaient ne former qu'un seul essai. On va revenir évidemment sur la notion d'écriture qui est au cœur de ces deux textes, mais est-ce qu'on peut raconter d'abord un petit peu l'histoire de la publication de ces écrits, dont l'un est en fait une publication avortée et qui est passée par l'Italie, comme vous êtes évidemment italien ou d'origine italienne, c'est important que vous le signaliez.
Oui, il s'agit d'une période heureuse de l'expérience de Barthes en Italie. Il collaborait même, il avait participé à la construction de la table, je dirais même de la géométrie, si vous voulez, de l'encyclopédie à encyclopédie chez Einaudi.
Pour grand laquelle, éditeur italien.
Oui, voilà, il avait fait plusieurs entrées. Et d'autre part, on lui demande de donner le petit volume écriture pour une collection qui venait d'être ouverte par un livre fondamental aujourd'hui encore, La philologie et la critique littéraire, les deux auteurs étant Vittore Branca pour la philologie et Jean Starobinski pour la critique littéraire. Mmh. Alors, évidemment, Roland Barthes était bien heureux de suivre Jean Starobinski dans ce chemin, sauf que la collection n'a plus eu de suite, et ce texte, en français, est resté inédit, et on l'a retrouvé après. Mais ce qui est beau, et aussi en même temps engageant pour nous, c'est de voir qu'il n'y a pas de plaisir, mais on le voit toujours dans les textes de Roland Barthes, sans l'exercice préalable d'une espèce de, je dirais, d'ascèse, de travail sur soi-même. On le trouve dans tous les textes de Roland Barthes. Il n'y a pas un plaisir qui déborde. C'est une manière... comme on le voit dans les exercices de Loyola, par exemple dans Sade Fourier Loyola, ce qui fascinait Barthes, c'est la construction, je dirais, d'une espèce de grande prison pour mieux en sortir.
D'où la précision du texte barthésien, et quand l'éditeur de Variations sur l'écriture italien en l'occurrence, demande à vulgariser un petit peu son texte, lui demande de vulgariser un peu son texte, Barthes répond « Non, je ne peux pas vulgariser mon texte parce que je suis un écrivain ».
Exactement, ça c'est la force aussi de la pensée de Roland Barthes. Il y a aussi une autre manière de voir cet élément. Il pense à l'écriture comme quelque chose de tellement important, tellement haut, que dans Roland Barthes, par Roland Barthes, dans son commentaire des photos, donc le commencement même du texte, j'ai toujours été fasciné par la dernière image, c'est un palmier, et sa définition est extraordinaire. Le titre est « Vers l'écriture » et il dit « Les arbres sont des alphabets, disaient les Grecs. Parmi tous les arbres lettres, le palmier est le plus beau. De l'écriture » profuse et distincte comme le jet de ses palmes, il possède d'effet majeur la retombée. Donc il faut monter haut pour qu'il y ait une retombée. Alors l'arbre alphabet, l'arbre palmier, à mon sens, l'une des plus belles définitions. On est réellement dans une poétique, dans une très belle poétique de l'écriture.
Alors, écrire, c'est aussi faire le geste d'écrire, Carlo Ossola. Et là, il faut peut-être remonter encore très loin dans l'histoire, jusqu'aux copistes pour qui la vie était vouée à ce geste d'écrire sans toujours comprendre ce qu'ils écrivaient. Qu'est-ce que Barthes trouve dans ce geste artisanal, ce geste physique qui lui fait réfléchir sur l'écriture?
Oui, je crois qu'à un moment, il dit « l'écriture s'entoure ». Il est très attentif au papier, à la plume, aux couleurs, à l'encre, etc. On le voit très bien du reste dans l'Empire des signes. Mais je pense qu'il est fasciné aussi par le ductus, le rythme surtout de l'écriture. Et je rappelle très très bien, parce qu'il donne des exemples, il a consulté les manuels, il était très consciencieux, très attentif, que son modèle préféré était la Caroline au Moyen-Âge. C'est-à-dire cette écriture dans laquelle on comprend tout, le signe est simple, est très rythmé, et j'ai presque l'impression, quand on voit les fiches de travail de Barthes, qu'il écrivait à la manière Caroline. C'est quelqu'un qui a vraiment intériorisé le graphisme. Du reste, calligraphie signifie en même temps belle écriture, et il a toujours eu une belle écriture jusqu'à la peinture. Dans le catalogue, enfin l'exposition Roland Barthes, on voit très bien toutes ces capacités de dessin, de graphisme, d'ouverture, etc.
Est-ce que lui-même se situait du côté de ces copistes du Moyen-Âge dont il considérait finalement que c'était la sagesse suprême? Parce que quand on ne fait que copier, c'est-à-dire qu'on considère que tout a été écrit.
Je pense que oui. Je voudrais pas limiter l'invention de Roland Barthes, mais plutôt souligner sa fidélité à l'exercice. Et j'ai pu parcourir à l'abbaye d'Ardennes maintenant, mais avant c'était les archives Roland Barthes. J'ai été fasciné par la manière par laquelle il a reconstitué dans des feuilles chacun des exercices de chacune des semaines, des exercices de Loyola, en plus en donnant des couleurs différentes à chacun des exercices. C'est quelqu'un qui se plongeait, adhérait profondément. Le copiste est en effet quelqu'un qui doit adhérer totalement au texte, peut-être avec un T majuscule, et c'est par là que le plaisir arrive, un plaisir de fidélité.
Alors justement, il faut en passer au plaisir du texte, parce que ce qu'on vient de dire là, Carlo Ossola, c'est un petit peu ce que Barthes explique dans Variations sur l'écriture. Il faut arriver au deuxième texte, qui est plus connu évidemment, c'est le plaisir du texte. Barthes définit le plaisir, pas en opposition, mais en parallèle à une autre notion qui est la jouissance. Alors il y a des textes de plaisir, il y a des textes de jouissance. Quelle différence Barthes fait-il entre ces deux notions, Carlo Ossola?
J'ai été, je l'avoue, très séduit par cette distinction, surtout en pensant à l'époque où tout était plaisir, ou bien on cherchait plutôt le bonheur et le plaisir en même temps. En introduisant jouissance, Barthes arrive à un degré différent, c'est-à-dire, il le définit du reste, en disant que la jouissance est quelque chose qui va au-delà du désir qui avait été formulé pour rejoindre le plaisir. Voyez, donc la jouissance éclate à un moment, jaillit, et vous surprend. C'est pas le résultat d'un calcul préalable, c'est le fait d'être surpris par le jaillissement.
Ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui, en quelque sorte, apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort renforce son moi, en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Tandis que la jouissance, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture. C'est pas en ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont à mon sens très rares et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale.
Thank you. la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Roland Barthes avec Carlo Ossola, professeur au Collège de France. Alors, pour creuser encore un petit peu cette double notion, on peut peut-être prendre des exemples que Barthes donnait lui-même. Un texte de plaisir, un texte donc qui vous conforte finalement dans qui vous êtes, dans ce que vous savez déjà, mais qui vous le réexplique. C'est par exemple un texte de Zola. Le texte de Zola a des personnages qui évoluent et on peut comprendre ce que l'auteur signifie à travers l'évolution des personnages. Un texte de jouissance, ça va être par exemple un texte de Philippe Soler, ce qui est donc un ami de Roland Barthes, parce que il n'y a pas, en tout cas dans les textes de l'époque, ça a peut-être un peu varié aussi chez Solers, il n'y a pas cette idée d'un développement narratif qui soit trop clair pour le lecteur. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous pourriez nous donner pour qu'on comprenne bien, qu'on saisisse bien ce que voulait dire Roland Barthes, Carlo Ossola?
Oui, quelques exemples un peu secrets du fait que c'est des textes qui apparaissent comme citations sans que l'auteur soit cité, mais quand on prend la formule que nous venons d'écouter, des textes qui se posent à la limite aux marges, ce n'est pas de textes marginaux, mais des textes qui vont vers l'excessus, c'est-à-dire vers un excès qui n'est pas dans la, comment dirais-je, dans la contrainte de la signification. Et je pense notamment à certains textes qui étaient dans la bibliothèque de, disons, de famille à Urt, comme Ruiz Brock, l'admirable. Il cite souvent ces textes mystiques parce qu'ils sont les plus proches de cette idée qu'il avait de la communauté, de ceux qui écrivent, de ceux qui vivent ensemble le texte et qui se manifestent plus librement dans les derniers cours au Collège de France, notamment le « Comment vivre ensemble ». Il prend vraiment les règles des communautés du Mont Athos, etc. Là, l'écriture fait système avec cette espèce de marginalité qui n'est pas la mise à l'écart, mais la manière d'arriver là où, je dirais, la limite vous permet de mieux faire résonner dans une tension suprême, comme il a dit, mieux faire résonner un seul signe, une seule note. Là, vous en parlerez, l'expérience musicale est absolument fondamentale pour comprendre cela. Ce n'est pas un discours de textes maudits ou de textes marginaux, c'est un discours de textes qui sont tendus à l'excès comme quelque chose qui serait à la limite de la parabole.
Et puis il y a aussi cette célèbre image que prenait Roland Barthes pour dire, finalement, le texte de plaisir s'apparente à un striptease. On sait comment ça commence, on sait aussi comment ça finit, et la tension dramatique, narrative, elle vient du fait qu'on a envie de voir quelqu'un nu, alors que le texte de jouissance, c'est le vêtement qui bâille, où on ne voit qu'un morceau de peau. C'est donc plus subtil, le texte de jouissance. Est-ce qu'il y a dans l'esprit de Barthes une hiérarchie entre ces deux types de textes? Est-ce que le texte de jouissance est d'évidence plus intéressant que le texte de plaisir?
Je dirais que la réponse est déjà dans la phrase finale que nous avons écoutée. Hein. Je pense que Roland Barthes appartient à ceux qui pensent que l'écriture, surtout l'écriture d'autrui, bien évidemment, doit vous mettre en question, doit interroger. Et je rappelle toujours, même dans mes cours, cette espèce de proverbe ou de sagesse chassidique qui dit qu'est-ce que fait l'homme sur terre? Il pose des questions à Yahvé. Et qu'est-ce que fait Yahvé dans les cieux? Il pose des questions plus intéressantes à l'homme sur terre. Donc un texte de jouissance est un texte qui vous interroge, vous dérange constamment, vous désaxe, pour ainsi dire. Je pense que Roland Barthes avait tellement le sens de cette puissance de l'écriture que pour établir après une communauté, il faut que quelqu'un intervienne avec le feutré, c'est-à-dire avec une espèce de pédale de sourdine, parce qu'autrement il y aurait trop de tension. Mais si un texte est de plaisir, on sait déjà tout au commencement et on ne cherche que la confirmation. Le texte doit confirmer le préalable. C'est ce qui se passe régulièrement dans les textes de série, les films de série. Il faut complaire aux attentes. Alors qu'un vrai texte doit toujours un peu vous déranger, vous porter au-delà, vous interroger, vous mettre en question et même, en effet, vous fissurer, si possible.
Mais un texte de jouissance peut devenir un texte de plaisir une fois qu'il entre dans le domaine public, j'ai envie de dire, parce que, je ne sais pas, il prend, me semble-t-il, Proust comme un texte de plaisir, Roland Barthes. Or, quand la recherche est publiée, c'est tout de même une œuvre qui est une œuvre d'avant-garde. Est-ce qu'on peut changer de statut comme ça ? Est-ce
que vous avez totalement raison, et je crois que Roland Barthes y pense également, parce qu'il a peur d'être à son tour, surtout au moment où il devient très célèbre, d'être un peu trop, entre guillemets, vulgarisé. Alors il écrit, c'est une fiche magnifique, parce que ça fait un peu un contrepoids, pour ainsi dire, ce que nous venons de dire, soulagement, repos, de pouvoir créer quelque chose qui ne soit pas pris directement dans le piège du langage, dans la responsabilité de toute phrase. Une sorte d'innocence, en somme, dont l'écriture m'exclut. C'est-à-dire qu'il est parfaitement conscient que, du fait même que nous entrons dans l'écriture, nous entrons dans un domaine qui est réglé depuis toujours, qui est dans un domaine public au sens le plus strict du terme. Alors, dès que vous entrez dans ce jeu, vous perdez un peu votre innocence. Vous pouvez devenir un texte de plaisir. Et donc, il est constamment dans cette attitude, comment je peux éventuellement retraduire le besoin de plaisir qu'on me demande, parce qu'on sait que je suis critique de la mode, etc., et arriver à un texte de jouissance. Tâche difficile.
Et lui-même, vous croyez qu'aujourd'hui, 30 ans environ après sa mort, même presque 40 ans après sa mort, est-ce qu'il fait partie des auteurs qui ont écrit des textes de jouissance ou est-il maintenant dans l'ordre du texte de plaisir? Parce qu'il est quand même beaucoup lu, beaucoup commenté, beaucoup connu, Roland Barthes, aujourd'hui.
Bien sûr. Là aussi, c'est une distinction difficile, mais qu'il faut faire. Moi, je dirais que quand il écrit, il a écrit des textes de plaisir, c'est quand il a, disons, adhérer d'une manière critique, ironique, à la mode. Alors que il y a des textes qui dépassent largement cela, c'est des textes pour lesquels il se met complètement en cause, indépendamment de la compréhension que le public pourrait avoir. Chambre-Claire est un exemple, à mon sens, fondamental. Et aussi la recherche presque exaspéré et à la fin de Vita Nova, en essayant de trouver un modèle ultérieur qui irait au-delà de ce qu'il a fait, même au-delà des fragments d'un désir amoureux, pour arriver à quelque chose qui serait vraiment un renouvellement. Alors, il commence par Dante, Vita Nova de Dante, et puis, en allant en avion dans son pays, au sud-ouest, il découvre l'édition, je crois, Le Guerne, qui venait de paraître, de la Pléiade Pascal, et il dit, voilà, j'ai retrouvé. Mais trop tard, nous n'avons plus, malheureusement, quel aurait été le travail de Roland Barthes sur Pascal, mais je crois que les deux sont en effet dans cette espèce de conscience d'impuissance et de besoin d'aller au-delà de cette impuissance.
La jouissance n'est-elle qu'un plaisir brutal, immédiat, sans médiation ? De la réponse oui ou non dépend la manière dont nous raconterons l'histoire de notre modernité. Car si je dis qu'entre le plaisir et la jouissance, il n'y a qu'une différence de degré, je dis aussi que l'histoire est pacifiée. Le texte de jouissance n'est que le développement logique, organique, historique du texte de plaisir. L'avant-garde n'est jamais que la forme progressive, émancipée de la culture passée. Aujourd'hui sort d'hier. Robe Grillet est déjà dans Flaubert, Solers dans Rabelais, tout Nicolas de Staël dans 2 cm² de Cézanne. Mais si je crois au contraire que le plaisir et la jouissance sont des forces parallèles, qu'elles ne peuvent se rencontrer et qu'entre elles, il y a plus qu'un combat, une incommunication, alors il me faut bien penser que l'histoire, notre histoire, n'est pas paisible, ni même peut-être intelligente. Que le texte de jouissance y surgit toujours à la façon d'un scandale, d'un boitement, qu'il est toujours la trace d'une coupure, d'une affirmation et non d'un épanouissement, et que le sujet de cette histoire, ce sujet historique que je suis parmi d'autres, loin de pouvoir s'apaiser en menant de front le goût des œuvres passées et le soutien des œuvres modernes dans un beau mouvement dialectique de synthèse, n'est jamais qu'une contradiction vivante. un sujet clivé qui jouit à la fois, à travers le texte, de la consistance de son moi et de sa chute.
Une lecture du plaisir du texte par Vincent Schmitt. Carlo Ossola, pour terminer sur ces deux notions, la jouissance, comme dans l'ordre de l'éros, elle est forcément antisociale. C'est difficile de jouir comme ça en public, alors que le plaisir, c'est de l'ordre du loisir, nous explique Roland Barthes. Si on continue les analogies, est-ce que ça veut dire que finalement l'avant-garde est quelque chose qui, par définition, ne peut pas être largement partagé? L'avant-garde, c'est obligatoirement quelque chose qui se fait en petit comité?
Question difficile. Je dirais simplement, en suivant la sémantique des termes, c'est que plaisir, comme to play en anglais, est participer à un jeu commun. Donc il faut qu'il y ait des règles communes, une reconnaissance du bonheur partagé, etc. Alors que jouissance, qui vient de jouir, n'est-ce pas, est un élément qui présuppose déjà une espèce de patrimoine qui me dépasse, dans lequel je dois m'insérer, que je dois dépasser en même temps. Les deux, comme nous venons de l'écouter, évidemment, partagent un terrain commun. Et je dirais que la définition finale vient d'un fragment même de Roland Barthes, qu'il n'a pas publié, à propos de l'éthique du langage littéraire. C'est un terme que nous n'avons pas prononcé, mais il le faut prononcer pour Roland Barthes. Il avait une éthique de l'écriture vraiment substantielle. Et il fait une distinction magnifique en disant qu'il y a une frontière très très subtile entre le mythe de Babel, où l'homme est puni par la confusion de ses idiomes, et le mythe de Pentecôte, où la pluralité des langues est, à l'inverse, attribuée à l'homme comme un don gracieux. Il y a, je dirais, chez Roland Barthes, la conscience des deux. Nous sommes dans une réalité babélique, donc il faut démêler les mythes, mais en même temps, nous essayons toujours, et c'est là la jouissance quand elle vient, de participer d'une manière ou d'une autre à un moment de Pentecôte, où les gens, sans besoin de trop se traduire, donc l'innocence de l'immédiat, arriveraient à se comprendre. Alors, j'ai l'impression, mais vous en parlerez demain, que cet autre langage de Pentecôte serait plutôt la musique. Mais vous le verrez demain.
En tout cas, c'est une formidable transition vers notre émission, en effet, sur la musique de demain. Merci beaucoup, Carlo Ossola, d'être venu nous parler aujourd'hui du plaisir du texte de Roland Barthes que vous avez préfacé, avec aussi Variations sur l'écriture, dans un recueil publié au Seuil en 2000. Dans quelques instants, nous allons trouver Mathieu Messager pour continuer de creuser cette vision de la critique littéraire par Roland Barthes. Mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Et
bonjour,
merci Monsieur Ossola, d'être là aujourd'hui. Vous nous parlez du grand dossier que le magazine littéraire consacre à la Chine.
En effet Mathieu, il nous paraissait très important de consacrer un dossier à la Chine parce que, bon, vous voyez, les autres médias parlent souvent de la Chine, mais c'est souvent pour évoquer son économie redoutable, son armée en pleine croissance, ses revendications territoriales et ses méthodes de contrôle social. Et il nous paraissait rester un point aveugle qui concernait la pensée. Quelle pensée est à l'œuvre en Chine? Quelle littérature témoigne de cette pensée? Bref, qu'y a-t-il dans la tête des Chinois? Et on s'est d'abord intéressé au regard que les Chinois jettent sur l'Occident. Avec cette question simple, comment se fait-il que la jeunesse chinoise d'il y a 30 ans, celle qui manifestait sur la place Tiananmen, n'ait pas vu ses revendications pour une démocratie reprises par la génération ultérieure? Alors c'est un écrivain qui nous répond, il s'appelle Ma Jian, il répond dans un grand entretien. L'une des explications, c'est que la politique de l'enfant unique et la croissance économique ont produit une génération de purs consommateurs qui n'idéalisent plus du tout l'Occident, mais qui reprennent au contraire les anciennes nationalistes du régime. Et puis il y a d'autres raisons qui viennent, elles, du gouvernement Xi Jinping. Ainsi, l'enseignement en Chine a changé. Il se centre beaucoup sur l'histoire de la Chine au XIXe siècle, qui est décrit comme un siècle d'humiliation. Et il s'accompagne aussi d'une exaltation des courants de pensée traditionnels chinois. Et le but, en fait, c'est d'installer dans la tête des individus l'idée que la Chine a toujours été purement indépendante et qu'elle est incompatible avec l'Occident.
Alors, pour explorer la pensée chinoise, il convenait, et vous l'avez fait, de revenir à ses fondations.
Voilà, c'est l'objet d'un grand article de Patrice Bollon qui part de la langue chinoise, en fait, et qui nous explique que dans cette langue, le verbe être n'existe pas. Les termes changent de sens selon leur place. Il n'y a pas de phrase, puisqu'il n'y a pas de ponctuation. Évidemment, ça a des conséquences sur la façon de penser. Par exemple, notre logique occidentale se forme sur un principe de non-contradiction. Une chose est soit vraie, soit fausse. Elle est soit en mouvement, soit immobile. Et en fait, jusqu'au XXe siècle, la pensée chinoise se représentait le monde comme peuplé d'objets non pas opposés, mais complémentaires. Où le mouvement devient repos, où ce qui était vrai hier devient faux aujourd'hui. Et cette pensée peut redevenir pertinente à l'heure de la recherche en physique quantique, où une particule peut se trouver dans deux états simultanés.
Et puis vous êtes enfin intéressé, comme il se doit au magazine évidemment, littéraire, aux écrivains chinois.
Voilà, alors on a un grand article d'Angèle Pinault et d'Isabelle Rabu qui nous explique un petit peu l'attitude du gouvernement chinois vis-à-vis de ces écrivains. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces grands écrivains, notamment Mo Yan et Yan Liangke, sont flattés par le régime chinois qui les choisit, qui leur donne des postes honorifiques en université, qui sont rémunérés. Et en échange, ces écrivains se permettent un peu de critique sociale, mais se gardent d'aborder les sujets qui fâchent et le grand sujet qui fâche, qui est celui de Tiananmen. Mm-hmm. Ce que nous montre aussi cet article, c'est que les Chinois s'écartent de cette littérature pure pour aller vers la littérature de genre. Et là, je me suis intéressé à une de mes maraudes qui s'appelle Yu Xingxin, qui est un auteur de science-fiction, qui est l'auteur phare en Chine, qui écrit une trilogie qui s'appelle Le problème à trois corps. C'est une lecture assez sidérante pour un occidental. Ça raconte l'histoire de la façon dont la Terre se prépare à une invasion extraterrestre et ça démontre un pragmatisme assez effrayant parfois, puisque des masses y sont sacrifiées, que les gens qui déplorent ces sacrifices sont traités comme des enfants puérils. Et ça démontre qu'à l'œuvre derrière cette littérature, toute une série d'autres interrogations qui n'ont rien à voir avec les interrogations judéo-chrétiennes que nous nous posons en science-fiction face à la technologie.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexis Broca, et donc on renvoie nos auditeurs sur votre dossier du magazine littéraire. À très bientôt.
Merci.
La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est le troisième volet de notre série consacrée aux sémiologues, critiques littéraires et écrivains Roland Barthes. Et pour continuer donc à explorer son idée de la critique littéraire, nous sommes à présent avec Mathieu Messager, maître de conférence à l'Université de Nantes et qui publie la semaine prochaine un Que sais-je inédit sur Barthes.
La revue, c'est quelque chose de très important pour moi, ou du moins ça l'a été pour la plus grande partie de ma vie d'écrivain ou d'intellectuel jusqu'à présent. Parce que écrire pour une revue, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la commande, comme nous disions, émane d'un groupe personnalisé avec lequel on a des rapports, qui sont des sortes de témoins responsable et actif d'un certain type de pensée, d'un certain type d'écriture, et donc c'est répondre à une demande qui n'a absolument rien d'anonyme, et en général, c'est répondre à une demande dont on estime les auteurs, les émetteurs, voyez, je crois que c'est très important ça. Par exemple, si j'écris actuellement un article pour, disons, Tel quel, ou Critique, ou Les cahiers du cinéma, je pense au groupe directeur de la revue, et c'est un peu pour lui, c'est pour répondre à sa demande que j'écris. Et puis aussi, le public d'une revue est tout de même personnalisé, donc écrire un article de revue, c'est autre chose qu'écrire un livre. C'est écrire dans une perspective de destination beaucoup plus précise.
Bonjour Mathieu Messager.
Bonjour Mathieu Garrigou-Laurent.
Merci d'être avec nous. On le comprend dans cette archive, comme d'ailleurs à la lecture de votre livre, la revue a été pour Barthes ce qui lui a permis de se déployer en tant que critique littéraire. C'est important de parler un peu du médium avant de parler du fond.
C'est un commentaire de Roland Barthes qui, je trouve, dit beaucoup aussi d'une époque qui est peut-être révolue.
Ah, critique existe toujours.
Oui, mais pas le nombre de revues dans lesquelles elle a pu participer. Du moins, les modalités ont changé. Ou beaucoup de carrières, beaucoup d'alliances, beaucoup de parti pris, beaucoup de fidélité, beaucoup de trahison aussi, se faisait par le moyen des revues. Donc la revue a été vraiment la cartographie de cette époque, d'un monde intellectuel qui est peut-être enfoui, ou du moins qui n'a plus cette virulence théorique.
Barthes aujourd'hui n'aurait pas la même audience parce que les canaux existent moins.
Elle serait peut-être différente, elle passerait par d'autres canaux. Mais en tout cas, pour revenir à l'importance de la revue pour Roland Barthes, il est fondamental de rappeler qu'elle a eu pour Barthes un rôle séminal, je dirais. Car quand Roland Barthes se met à écrire, Roland Barthes est en marge de l'université. Il n'a pas encore tous les diplômes, il n'a pas soutenu de thèse qui le destinerait logiquement à publier sa thèse, à être appelé par des revues ou par des éditeurs pour publier ses écrits, publier sa pensée. Donc je dirais que la revue lui a donné l'occasion d'un début, l'occasion d'affirmer une patte critique.
C'est une formule de Nadeau, l'occasion d'un début.
Oui, Nadeau qui cette Barthes lui a permis. Je remercie Nadeau de lui avoir donné un début.
À combat, oui.
Et ce début a eu lieu à Existence, qui était le bulletin trimestriel des étudiants du sanatorium dans lequel Barthes était de 42 à 46. Et puis après, tout au long de sa vie, elles ont marqué des jalons. Le premier a peut-être été la revue Théâtre Populaire, où, à travers laquelle Barthes a pu donner lieu à toute une écriture du militantisme.
Donc la revue de Jean Villard.
La revue de Jean Villard, oui, vous avez raison de rappeler les noms. Puis la revue a été pour lui, je dirais, un fer de lance programmatique aussi, pour mettre en avant des sciences qui naissaient, en tout cas des partis pris théoriques. Je pense à la revue Communication, à laquelle il participait dès le début, il est fondateur. Puis, dans l'avancée de sa vie, dans l'avancée de sa carrière, des fidélités à l'avant-garde, avec telle qu'elle. Et une fois peut-être, mais je vais vite, Jean-Jean, mais évidemment. Une fois le critique ou l'écrivain, je ne sais pas comment on l'appellera, Barthes installé, il s'est mis aussi à donner des textes à des revues plus marginales, plus petites, pour faire entendre différentes options, différents points de vue qui n'étaient pas forcément ceux qu'il inscrivait dans ses essais habituels, notamment sur l'art, sur la question du genre, sur la photographie, etc.
Alors dans la revue Théâtre Populaire, il va beaucoup écrire sur le théâtre de Brecht. C'est important parce que il va utiliser ce théâtre-là pour valider, pour exemplifier sa conception de la critique littéraire, Mathieu Messager.
Tout à fait. Et on pourrait dire que la manière qu'a Barthes de revenir en permanence à Brecht, d'écrire, de multiplier les articles, parfois en disant la même chose.
Ou en disant quoi alors
en disant la même chose, enfin en disant quoi, en disant surtout, ce qui le fascine chez Brecht, c'est vraiment l'anti-théâtre bourgeois, l'anti-théâtre de la mimésis, l'anti-théâtre où le spectateur est collé à l'acteur, qui est habillé en vêtements d'époque, qui s'exprime lourdement pour souligner le sens. Et ce qu'il adore, au contraire, chez Brecht, c'est que c'est un théâtre qui n'impose pas le sens, mais qui le désigne de manière latérale par des choix de mise en scène et par des référents très concrets, comme le décor, comme le choix des costumes, comme l'intonation d'une voix. Et il va trouver dans Brecht, dans cette trouvaille de Brecht, en fait, l'occasion de dire que c'est vraiment ce théâtre-là qui éduque l'œil du spectateur, car il ne lui impose pas le sens, il ne lui mâche pas le sens, mais il l'invite à construire le sens, à voir le sens de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus subtile.
Alors comment fait-on de la critique littéraire quand on ne parle pas du sens du texte ou du sens de la pièce? De quoi, du coup, parle-t-on?
Alors c'est le renversement qu'il va annoncer peut-être dans les essais critiques, c'est-à-dire qu'il la véritable novation des essais critiques, ce pourquoi ils ont tellement été appréciés par toute une génération d'étudiants et de lecteurs, c'est que effectivement Barthes ne conditionne plus, du moins en théorie, ne conditionne plus l'approche des textes à son sens, à sa vérité révélée, mais la conditionne à des éléments qui seraient plus de l'ordre de la surface, des signes dispersés dans le texte, des éléments formels. Et c'est la recollection de ces éléments formels, comme il fait chez Rob Grillet, comme il fait chez Queneau. Donc, par exemple, l'insistance d'un thème, l'insistance d'un objet, un accident stylistique, etc., une formule de rhétorique. C'est toute cette recollection d'objets par le lecteur qui va les rassembler en surface, qui vont donner lieu à une vérité formelle du livre pour viser le sens profond, et le sens profond qui est souvent avant-gardiste, comme on pourra peut-être l'évoquer.
Bien entendu. Donc ces essais critiques, hein, c'est un recueil de divers articles qui paraissent en 1954. Des articles qui ont pu être avant publiés par critique.
64.
En 1964, par tel quel, par argument, lettre nouvelle. Et alors, qu'est-ce que ça change pour les lecteurs d'avoir lu ces essais critiques dont vous dites, Mathieu Messager, qu'ils ont été très importants? Qu'est-ce qui est possible après leur lecture qui était moins possible ou qui n'était pas possible avant? Et du coup, la question, c'est en quoi est-ce que ça change littéralement le champ de la critique littéraire pour un certain nombre de personnes, pour toute une génération même?
C'est une question essentielle et c'est le nœud même de ces essais critiques, donc vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce que ça change essentiellement, c'est que ça remet le lecteur au centre du jeu interprétatif. Car comme un jeu de pistes, il est amené à justement faire cette recollection de formes, de signes, d'objets formels pour postuler un sens. C'est comme un enquêteur à travers le texte. Mmh. Et c'est pas du tout pour prôner une critique qui va être de l'ordre de l'impressionnisme. D'ailleurs, je vois ça, je pense que c'est ça. Pas du tout. Il va au contraire réclamer du lecteur une responsabilité nouvelle, un devoir de recollectionner un nombre maximum d'objets de manière la plus valide possible.
Donc finalement, on peut dire ce qu'on veut d'un texte tant qu'on arrive à le prouver avec le texte.
Tant qu'on peut le prouver par le texte et tant qu'on peut mettre dans notre analyse le maximum d'objets valides qui pourront valider notre proposition critique. Mmh. Et donc ça change totalement la perspective parce qu'on passe finalement de qu'est-ce que veut dire ce texte, donc quelle interprétation je lui donne, quel sens définitif à ce texte, à comment est construit ce texte et quelle postulation de sens on peut faire. Qu'est-ce que je peux défendre, moi, de ce texte qui le lit et qui est perçu à différents endroits, ces formes, ces signes que j'indique et que je recollectionne en réseau et qui sont le réseau profond de signification de ce texte.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans l'université française et peut-être aussi ailleurs, c'est la manière dominante de faire de la critique littéraire ou est-ce qu'au contraire, on n'est plus dans un moment barthésien?
Alors c'est difficile à moi de l'évaluer, il faudra effectivement une longue analyse, mais la mode du retour à Barthes, la manière dont les étudiants et les professeurs l'aiment et le lisent encore, témoigne peut-être en creux d'un abandon à cette recherche systématique de signes et à peut-être une éclosion nouvelle du sens définitif d'un texte.
Donc, qu'est-ce que c'est? On s'est tenté de dire qu'il y a quelque chose de réactionnaire là-dedans. Enfin, je ne mets pas de jugement de valeur dans ce mot-là.
Mais c'est ce qui est demandé à beaucoup de publications. C'est-à-dire, pensez vite, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est la feel-good littérature? Donc c'est une littérature qui va me faire du bien. Pourquoi elle me fait du bien? Bref, avant même de lire le texte, certains schémas critiques en conditionnent la réception. Et aujourd'hui, ces schémas critiques sont peut-être de la consommation pragmatique, plus direct, qui nous apporterait immédiatement quelque chose. En cela, c'est différent de la proposition de Barthésienne qui allait chercher dans le texte une mutation du lecteur et n'allait pas chercher la mutation que souhaitait le lecteur avant la publication du texte.
Est-ce qu'on peut y voir, plus largement dans la société, une sorte d'anti-intellectualisme qui considérerait qu'il y a un sens et que ce sens-là est donné et qu'il faut s'y référer et qu'on ne peut pas soi-même, chacun, avoir une interprétation diverse et subjective d'un texte?
Il faut pas élargir, mais c'est effectivement des canaux différents nous imposent de penser vite, de dire des vérités, de consommer des vérités, de les échanger par les réseaux sociaux le plus rapidement possible, sans qu'il y ait la possibilité de cette nuance, de la hiérarchie et de la pluralité des sens, qui font quand même la sève de l'exercice et de la conversation critique.
Vous écoutez La Compagnie des Auteurs, vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de Roland Barthes avec à présent Mathieu Messager. La mort de l'auteur, c'est un concept barthésien publié dans la revue Manteia. Enfin, l'article intitulé La mort de l'auteur a été publié dans cette revue en 1968. C'est aussi un jalon dans l'histoire de la critique littéraire. Dans quel sens ?
Tout à fait, ça nous renvoie aux revues, en fait. Et la chose qu'on a pas dite, c'est que l'œuvre de Barthes a beaucoup transité aussi dans le monde estudiantin à travers des photocopies d'articles de revues, avant qu'Éric Marty nous offre les œuvres complètes. Et c'était une revue en plus un petit peu marginale, en 1968, Manteia, et Barthes, par ses audaces, par ses inventions lexicales, par ses inventions conceptuelles, par ses syntagmes comme ça, les biographèmes, le bruissement de la langue, la mort de l'auteur, ont attiré beaucoup de lecteurs et beaucoup de photocopies.
Il a le génie des titres.
Il a le génie des titres. Et je pense que la première réception que notre génération en a eue, alors notre génération c'est la mienne, je m'inclus dedans, c'est-à-dire les gens qui sont nés après la mort de Barthes, après 1980, leur première manière de consommer Roland Barthes, c'était justement une consommation à travers ses concepts, à travers ses mots. Et c'était vraiment cette empreinte-là qui a été première pour des lecteurs de ma génération.
Peut-être que
avant
vous,
de réhistoriciser comme, chacune des notions.
Comme moi, comme beaucoup de gens, vous avez employé à mauvais escient toutes ces expressions qui sont tellement séduisantes, mais qu'on ne comprend pas forcément
avant
beaucoup, les avoir
étudiées. Mais ça dit beaucoup de Roland Barthes et sa capacité justement à créer, je crois que c'est Éric Marty qui en parlait hier à propos du titre du degré zéro de l'écriture. Et non, il disait très justement que c'est un titre qui, sous son apparence formaliste, n'est pas du tout clos, mais reste ouvert, et donc a une capacité à essaimer, en dehors du champ littéraire, en dehors de la stricte critique littéraire, pour aller nourrir peut-être des pensées philosophiques, des pensées d'artistes, etc. Et la capacité de Barthes a été de réussir à essaimer justement par ce lexique-là.
Et la mort de l'auteur.
Et la mort de l'auteur, donc, oui, renverse à nouveau, mais ça va dans la continuité de ce qu'on disait à propos des essais critiques, renverse la hiérarchie admise, comme quoi le seul personnage ou la seule entité qui soit dépositaire de la vérité du texte, c'est l'auteur, c'est celui qui émet le texte. La vérité à trouver dans l'origine du texte, à savoir dans celui qui l'inscrit, dans l'auteur. Et Barthes nous dit tout l'inverse, il dit non, il faut en finir avec ce mythe de l'auteur, qui le mythe de la littérature avec un N majuscule, et revenir au contraire à une assomption du lecteur, parce que il est, de manière très très logique, que le sens d'un texte est construit par ses lecteurs. Il n'est pas construit par l'auteur. Une fois que l'auteur a publié, le sens lui échappe. Et c'est ce que nous rappelle Barthes. Et donc, nous émancipe et nous force à être, si vous voulez, auteur par une lecture interposée. On est auteur de la construction d'un sens.
Et là, on comprend aussi en quoi Roland Barthes est proche de la psychanalyse. Par exemple, il y a peut-être cette idée que l'auteur lui-même ne sait pas très bien ce qu'il écrit.
Il y a de ça.
Il y a de l'inconscient dans le travail de l'écriture.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, ça appartient à la critique structuraliste de recueillir ce réseau des thèmes inconscients, comme il l'a fait dans Sur Racine, par exemple, pour montrer qu'il y avait une vérité de Racine qui était bien en deçà de ce que voulaient nous dire les détenteurs de Racine en Sorbonne, qu'il n'y avait qu'une vérité, que c'était la vérité des concepts de Racine, de la vie de Racine à travers ses œuvres, de la psychologie que Racine a voulu mettre dans ses œuvres, mais qu'il existait bien inconsciemment des réseaux souterrains et que les sciences sociales se développant comme dans les années 60-70, ont apporté des outils ou un outillage conceptuel nouveau pour nous apprendre à décrypter cela.
Alors on parle de Racine, mais on pourrait parler de Balzac aussi, parce que dans l'article « La mort de l'auteur », Barthes commence par citer la nouvelle de Balzac, qui Sarrazine. C'est le fameux texte SZ, nouvelle qui parle d'un castrat donc déguisé en femme, où Balzac écrit cette phrase « C'était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment. » Et Barthes demande « Mais qui parle dans cette phrase? Est-ce que c'est le héros de la nouvelle? Est-ce que c'est Balzac lui-même? Est-ce que c'est la sagesse universelle ? Quel est l'enjeu pour Barthes de poser cette question-là, Mathieu Messager ?
L'enjeu est très aussi, alors tout à l'heure on historicisait un peu, on contextualisait, c'est une période où Barthes est très sensible à la question de l'intertextualité, c'est-à-dire que une œuvre emprunte toujours à d'autres œuvres et noue dans son texte un tissu de voix dont l'origine finalement devient insituable. Et Barthes, par ce texte-là, nous dit qu'on ne peut pas effectivement trouver l'origine de la voix, mais au contraire une tresse des voix, un pluriel de voix, et on ne peut jamais arrêter finalement notre exercice critique à une voix définitive. On est toujours en déport par rapport au texte qui nous est proposé, toujours à chercher un fond de l'œuvre, mais ce fond n'existe pas parce qu'il se répercute de voix en voix, de signe en signe, etc.
Est-ce que vous avez appris à lire en découvrant, en travaillant sur Roland Barthes ?
J'ai appris à avoir une exigence de lecture, effectivement, nouvelle, à ne pas me laisser imposer un sens, mais le deviner, le contester aussi parfois quand c'est possible. Mais en tout cas, oui, Barthes nous a autorisé, ça, hein, c'est vraiment cette force-là, parce que si je devais trouver une spécificité de la critique barthésienne, parce qu'on est un petit peu aussi là pour ça, qu'est-ce qui fait sa patte, qu'est-ce qui fait son supplément, qu'est-ce qui fait sa sève, pourquoi on le lit toujours? Ben, je pense que Barthes n'est pas un simple commentateur. C'est pas quelqu'un qui se contente d'expliquer les textes. Son génie vient du fait qu'il arrive à expliquer les textes tout en excédant le texte de propositions théoriques nouvelles, extrêmement jubilatoires, extrêmement denses sur le plan intellectuel, et que c'est un auteur qui pense à même le texte et qui finalement fait œuvre d'écrivain en se rangeant comme une parole clandestine auprès d'un texte tuteur. C'est-à-dire que quand je lis, ou quand peut-être vous lisez aussi ces articles sur telle pièce de théâtre de Baudelaire, sur tel roman d'Yves Vélan, est-ce qu'on va vraiment lire les auteurs qu'ils commentent? Est-ce qu'on va vraiment s'intéresser aux sources qui sont commentées? Je pense pas. Ce qui nous fascine, c'est la puissance de pensée qu'a Roland Barthes et qu'il déploie à même la phrase des autres. Et je pense qu'il nous a autorisé aussi, nous critiques peut-être, hein, et peut-être futurs essayistes, à justement se tisser près de textes tuteurs et de s'autoriser à proposer autre chose à partir de ce texte.
Alors qu'est-ce qu'on peut écrire après Barthes, quand on est un futur essayiste?
Peut-être que Barthes a... donc il a effectivement eu une descendance critique, c'est indéniable. Bon, il y a peut-être eu tout un jeu de mimétisme, tout un jeu où on adoptait l'éthique barthésien. Mais peut-être que le meilleur de sa postérité se trouve dans la littérature. C'est-à-dire que quand Roland Barthes réfléchit à une autobiographie cryptée, où le « je » est « il », où le « il » est « je », où on ne sait, où je dis « je » mais je ne suis pas « je », annonce aussi peut-être tout ce qui va être fait du côté de l'autofiction, de la factographie. Quand Roland Barthes fait œuvre d'écriture depuis le commentaire, en instillant de la subjectivité, en déconstruisant l'ordre dissertatif du discours, en s'autorisant de métaphores et d'images appartenant pleinement au romanesque, il inaugure peut-être des fictions critiques, des fictions théoriques, qui ont aujourd'hui, à travers des gens comme Pascal Quignard, un essayisme d'ordre fictionnel, germé jusqu'à cette génération-là.
Et puis il y a même des romanciers fait de Barthes un personnage, Thomas Clerc par exemple.
Oui, ou Binet également sur la septième fonction du langage. Effectivement, c'est devenu un objet de pop culture, Roland Barthes. C'est aussi ça.
Merci beaucoup, Mathieu Messager. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, fondateur aussi, on l'a pas dit, du site rolandbarthes.com et auteur donc d'Un que sais-je sur Barthes, qui paraît le 19 juin.
C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Valentin Bobinet. Demain, dernière étape de notre parcours barthésien avec une émission consacrée à son rapport à la musique. Mais tout de suite, c'est avec la poésie que vous avez rendez-vous, celle qui vous est lue chaque jour par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que c'est le souvenir qui fabrique le poème ? Ou le poème qui fabrique le souvenir. Ça, c'est tiré du livre de François de Cornière, Ça tient à quoi ? Est-ce que c'est le souvenir qui fabrique le poème ou le poème qui fabrique le souvenir ? Ce qui fait la singularité de la poésie de François de Cornière, depuis longtemps considérée comme chef de file de la poésie du quotidien, c'est certainement le sens du détail. Ce que tout un chacun dans le flux des jours considère en continu comme une quantité négligeable, banale, sans intérêt, François le note au moins dans un coin de sa tête ou sur un pense-bête, parce que s'il y a ressenti quelque chose en creusant ce rien, fût-il infime, l'émotion, le trouble peut déboucher sur un poème et que son écriture est sans cesse à l'affût de ces très brefs moments où sa sensibilité détecte ce tout petit chavirement de la conscience. Ce sont des notes de lecture de Jacques Morin qu'on trouve sur le site Poésie Bao. Est-ce que c'est le souvenir qui fabrique le poème ou le poème qui fabrique le souvenir ? C'était la question que j'avais emportée avec moi pour une marche le long de la plage, aujourd'hui après le déjeuner. Ce n'était pas la première fois que j'abordais le problème. Le matin, pour une invitation dans une librairie, j'avais relu certains de mes textes et je m'étais dit « Je me souviens de ces instants, mais était-ce vraiment comme cela ? Ce souvenir serait-il le même si je n'avais pas écrit de poème ? Et existerait-il encore ?» De retour à la maison, j'avais continué de penser à la question de la mémoire et de la poésie, et à la place de l'auteur comme à celle du lecteur. Sur mon vieux poste de radio, j'avais mis un CD de Supertramp. Il avait de l'âge, le titre qui passait était Downstream. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais qu'il collait bien avec ce que j'essayais de comprendre. Quand on cherche à écrire en peu de mots, quelque chose de sa vie. Autre poème, la photo s'efface. Je la vois s'effacer, la photo que j'avais punaisée sur l'étagère près du téléphone. Nous sommes sur une plage en octobre, je me souviens qu'il faisait très beau et chaud pour la saison. J'avais demandé à un homme de nous prendre tous les quatre. Je lui avais tendu mon appareil photo. À gauche, tu poses ta main sur le bras de ton fils. Il avait pris l'avion de très loin pour être là, avec sa sœur, entre nous deux. À gauche du cadre, j'ai gardé mes lunettes de soleil. Je crois savoir pourquoi. Aujourd'hui, la photo que j'avais imprimée à l'époque perd toutes ses couleurs et je nous vois qui nous enfonçons vers une nouvelle disparition. Cela me trouble de penser que notre dernière photo ensemble, avec la mer derrière, ne sera bientôt plus qu'un rectangle blanc sur l'étagère près du téléphone. Le présent est un filtre qui capte les émotions qui viennent, il relie autant les éclats de mémoire. François de Cornière est un orpailleur, hors pair, qui trie les pépites au milieu de la bouillie des jours. Il est l'un des seuls à savoir le faire, nous dit Jacques Morin, qui est aussi l'auteur de la préface de « Ça tient à quoi ?»
Merci beaucoup Jacques Bonafé, à demain.